Bonjour à tous et bienvenue dans notre rubrique l'association de la semaine. Aujourd'hui, je reçois Valérie Noël, directrice de l'association La Mandragore. Valérie Noël, bonjour.
Bonjour.
On va commencer par présenter l'association. Quand a-t-elle été créée ?
Alors, l'association a été créée en 1984. À l'origine, un partenariat multiple entre des élus locaux, une association d'éducateurs de rue, de prévention, et la volonté à un moment donné de pouvoir répondre à des besoins d'hébergement sur le territoire de Mantes. Le constat était dans les années 80 qu'il y avait de plus en plus de jeunes femmes à la rue, souvent ayant leurs propres enfants et étant obligées de se séparer de leurs propres enfants pour des questions d'hébergement. Donc du coup, l'idée, c'était d'éviter l'éclatement de la cellule familiale et de pouvoir répondre à un besoin d'hébergement au niveau de la famille. C'est comme ça qu'est née l'association, la volonté à un moment donné d'accueillir parents et enfants dans des lieux sécurisants.
Vous êtes associé à une autre association qui est l'Émergence, c'est ça ?
Alors, en fait, en 2012, le projet a été de fusionner Émergence, qui était également un centre d'hébergement et de réinsertion sociale sur la ville des Mureaux, avec la Mandragore. Donc, en fait, ce sont deux associations qui ont fusionné pour en faire une seule.
Et dernièrement, donc au début de cette année, vous avez également fusionné avec l'association La Rose des Vents.
Voilà, donc effectivement, nous ne sommes plus une association, nous sommes un établissement. Nous avons été absorbés par l'association La Rose des Vents Equalis, dont le siège social est à Mareuil-les-Maux dans le 77, en Seine-et-Marne. Et du coup, nous sommes maintenant une grande structure Île-de-France.
Donc, quel est le projet associatif de la Mandragore ?
Donc aujourd'hui, la Mandragore, elle accompagne un peu plus de 350 personnes chaque année. On a à la fois une mission d'hébergement, où nous accueillons dans des logements éclatés, donc c'est-à-dire des logements qui nous sont mis à disposition par des bailleurs sociaux ou par des communes au milieu de la ville, dans la cité. Nous accueillons donc des personnes dans ces logements-là qui sont sans logement, qui sont soit effectivement repérés comme sans domicile fixe ou en tout cas en rupture d'hébergement. Et du coup, nous les accueillons, parents et enfants, dans un logement. Ils ne sont pas du tout dans une structure collective. C'est pour ça qu'on appelle ça du logement éclaté. Aujourd'hui, nous avons 32 logements en éclaté pour faire de l'hébergement à la fois d'urgence et d'insertion. Et puis, nous avons une autre mission qui est une mission d'insertion par le logement, où les personnes que l'on accompagne sont souvent locataires en titre, mais ont des difficultés soit d'accéder, soit à se maintenir dans le logement. Et donc, les travailleurs sociaux vont pouvoir accompagner tous ces ménages pour qu'il y ait une stabilité dans le logement.
Concernant ces logements, comment vous faites pour réserver finalement ces logements ?
Alors, au niveau pour l'hébergement, on a un partenariat très développé sur le Mantois. On est connu, on a beaucoup travaillé avec les différentes communes et les bailleurs sociaux de la région. Et à chaque fois que nous avons des places qui se libèrent, des besoins de développer, on sollicite les bailleurs et ils répondent présents.
Et concernant les personnes, les bénéficiaires, est-ce qu'ils peuvent venir vers vous d'eux-mêmes ou c'est...
Alors le plus souvent, ils sont... repérés par les secteurs d'action sociale, donc du département des Yvelines. Il y a depuis 2010 maintenant une plateforme, un service public qui s'appelle le SIAO, le Service Intégré d'Accueil et d'Orientation, qui est une plateforme de repérage de l'ensemble des besoins d'hébergement. Donc en fait, les personnes qui sont en difficulté d'hébergement vont vers les services de polyvalence de secteur, vont parler de leurs difficultés. Il va y avoir un dossier monté en SIAO. Et du coup, après, ça va redescendre dans les structures d'hébergement.
Vous êtes situé où, concrètement ?
Alors, aujourd'hui, on a deux locaux. On a des locaux à Mantes-la-Jolie, où était le siège précédent de l'association, 28 Place Saint-Jacques, juste derrière le palais de justice. Et nous avons aussi des locaux, maintenant, à Mantes-la-Ville, au 125 Route de Houdan. Voilà, nous avons en fait développé deux locaux, puisque nous avons augmenté nos activités, donc on avait besoin de plus de place.
Parce que vous avez deux secteurs, c'est ça, le secteur logement à Mantes-la-Jolie et le secteur hébergement à Mantes-la-Ville.
C'est exactement ça, on s'est organisé comme ça. Sur les secteurs de à Mantes-la-Jolie, on réalise aussi beaucoup d'actions collectives pour justement, comme les personnes sont logées dans des endroits très différents, on essaye quand même qu'il y ait une dynamique collective pour créer du lien social. Et donc, on organise très régulièrement dans les locaux à Mantes-la-Jolie des ateliers collectifs, ateliers cuisine, numérique, autour de l'accès au logement. Enfin, donc, on a plusieurs thèmes et puis aussi plein d'animations qui permettent de créer du lien social entre les parents, les enfants et les personnes entre elles.
Ouais, justement, on va détailler ces ateliers et ces animations. Vous avez parlé donc d'ateliers cuisine.
En fait, l'idée vraiment est que on puisse redonner un peu de pouvoir aux personnes accompagnées. Très longtemps, en travail social, l'idée était que les travailleurs sociaux avaient la connaissance et les personnes qui étaient en précarité étaient en grande difficulté, donc maîtrisaient peu le sujet. Aujourd'hui, on est vraiment dans un mouvement différent et l'idée, c'est que tout le monde à travers son parcours, son expérience de vie, des compétences et du savoir. Et donc, on travaille de plus en plus ce que nous, on appelle la notion d'empowerment, c'est-à-dire redonner du pouvoir aux personnes accompagnées. Et à travers leur expérience, ils vont pouvoir témoigner de ce qu'ils savent faire et on va, à ce moment-là, décliner des ateliers. Donc, effectivement, on a commencé par un atelier cuisine parce que on s'est rendu compte que souvent, la convivialité passait par le repas, par l'alimentation. Et donc, du coup, tout le monde, quelle que soit son origine, avait une culture autour de l'alimentation et pouvait effectivement transmettre sa culture, son expérience, son savoir. Donc, il y a eu au début beaucoup de partage autour de l'alimentation et donc le plaisir d'échanger son savoir. Et puis, progressivement, il y a eu aussi l'envie de partager avec ses propres enfants. Donc, autour de la cuisine, on a développé des ateliers de parentalité où, effectivement, on va pouvoir transmettre de génération en génération le plaisir de cuisiner, comme on fait, Et puis, il y a aussi, après, l'autre aspect de l'atelier cuisine qui est comment, avec peu de pouvoir financier, on va quand même pouvoir cuisiner à moindre coût, correctement et équilibré. Voilà, donc ça, l'atelier cuisine, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Les personnes accompagnées prennent plaisir à venir régulièrement. Alors, on n'a pas une infrastructure très développée, donc on est obligé de limiter systématiquement le nombre de personnes que l'on accueille, mais c'est quelque chose que l'on fait au moins une fois par mois, et ça depuis maintenant 3-4 ans.
Toujours dans un aspect, je dirais, ludique, il y a un atelier créatif également. En quoi il consiste ?
Voilà, donc l'atelier créatif, il n'est pas là depuis bien longtemps. En fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, de la même manière, des personnes accueillies avaient par moment besoin d'exprimer par la création un bien-être. C'est un moment où on se détend, où on peut effectivement se recentrer sur soi. Et donc, à travers des gestes manuels qu'on parfois on oublie parce qu'on apprend beaucoup ça à l'école. Et puis après, quand on est dans la vie active, le loisir, la créativité, on la met un peu de côté face surtout aux difficultés sociales. Et donc, c'est se recentrer sur soi et pouvoir, à travers son imaginaire, sa créativité, pouvoir faire quelque chose. C'est assez valorisant parce que les personnes qui créent repartent avec l'objet réalisé et souvent au fil des semaines on se rend compte que vraiment il y a une créativité qui se redéveloppe, qui est existante mais qui a été perdue, oubliée et qui s'apparaît, et les gens sont beaucoup plus valorisés dans leur personnalité.
Alors, il y a d'autres ateliers qui sont très utiles pour les bénéficiaires. D'abord, l'atelier numérique, pour permettre aux gens d'avoir accès à leurs droits.
Alors, l'atelier numérique, il est né, en fait, donc d'un constat des personnes qu'on accompagnait en hébergement, de dire qu'effectivement, dans les logements, il n'y avait pas d'accès à Internet. Donc, on a voulu leur permettre l'accessibilité à Internet. Et pour le faire, comme on avait effectivement des moyens très limités, on a, avec les personnes accompagnées, répondu à un appel à projet, dans un premier temps, qui était de la Fondation SFR, où donc les personnes accompagnées ont écrit le projet, ont été défendre leur projet auprès de la Fondation SFR pour pouvoir avoir des financements autour des abonnements à une box. On n'a pas été retenu jusqu'au bout, mais le projet ayant été vraiment bien monté et ficelé, l'État, qui est notre financeur principal, a donné des finances supplémentaires. Et puis donc aujourd'hui, donc tous les appartements d'hébergement sont équipés en box internet. On a en parallèle un atelier avec donc dans un bureau où il y a plein d'ordinateurs de mise à disposition pour aider les personnes à savoir utiliser Internet, parce que c'est pas le tout d'avoir l'accessibilité, encore faut-il savoir se rendre auprès des administrations. Le plus important pour nous, c'est effectivement éviter la fracture numérique, et donc du coup on permet aux personnes de savoir ouvrir un compte, une adresse mail, pouvoir échanger avec les administrations, la caisse d'allocation familiale, la sécurité sociale, le centre des impôts, puisque maintenant tout se fait, souvent les déclarations se font par le net, c'est très difficile de pouvoir avoir accès au guichet, et donc du coup c'est tout un apprentissage sur comment je communique avec les institutions et je peux faire valoir mes droits à travers des démarches administratives via le numérique.
Et dernier atelier, c'est un atelier sur le logement en général, sur comment appréhender un logement, quoi.
Alors on a acquis un jeu qui avait été fait par des structures associatives du domaine de l'insertion par le logement, qui s'appelle Qui joue loup, et qui permet vraiment une approche très ludique de quand on est dans un logement locataire, quels sont les droits et les devoirs d'un locataire, quels sont aussi les risques d'endettement, quels sont la manière de bien gérer les énergies. Donc plein de questions autour dans le cadre de ce jeu qui font que progressivement, effectivement, là on revient sur la notion de pair, où les personnes accompagnées vont avoir des repères différents selon leur expérience et vont pouvoir s'apporter mutuellement leurs propres expériences et leurs propres avis. Et là, à nouveau, on est donc à la fois dans l'apprentissage, mais aussi dans la reconnaissance de j'ai du savoir, j'ai des connaissances et je peux les partager.
Il y a également d'autres activités collectives basées sur la culture.
C'est exactement ça. Notre volonté vraiment de permettre aux personnes démunies l'accessibilité à la culture et au sport. Oui. Parce que c'est vraiment pour nous vraiment l'ouverture sur l'extérieur, la citoyenneté. Et donc du coup, on a depuis quelques années développé un partenariat avec Blues sur Seine, qui nous permet chaque année de pouvoir offrir aux personnes qu'on accompagne un concert de qualité, donc au mois de novembre, au moment du festival Blues sur Seine, et c'est vraiment un moment vraiment de grande qualité, parce que souvent les personnes qu'on accompagne ont oublié le plaisir d'écouter de la musique, de partager un moment festif. Et souvent c'est pour la plupart leur premier concert, entre un moment de plaisir parce que on dîne ensemble et on écoute de la musique voire on danse, c'est vraiment un moment important, ce partenariat avec Blues sur Seine.
Et y a-t-il d'autres manifestations dans l'année?
Alors on essaye à chaque fois de développer des manifestations en lien avec avec l'actualité. Là, on est sur les élections municipales, donc on a développé tout un échange autour de la citoyenneté. Qu'est-ce que ça veut dire d'aller voter? Pourquoi? Comment on peut avoir une action, dans son quartier, sur sa commune? Donc là, en ce moment, on est sur ce sujet-là. L'année dernière, c'était en 2018, le foot. Et donc, du coup, on a fait toute une action autour du sport. Et avec, en partenariat avec la commune de Mantes-la-Ville, nous avons eu l'occasion de réserver un stade. Et on a pu développer un match de foot collectif, parents-enfants, qui était très bien parce que ça nous a permis de repérer qu'en fait, les personnes qu'on accompagnait la plupart du temps étaient assez exclues de toutes ces activités sportives, alors que ça fait énormément de bien de pouvoir sortir de chez soi et d'aller s'aérer en faisant du sport.
Donc tout cela, c'était les actions collectives. On va reparler plus globalement de vos missions sur le logement. Déjà sur votre zone d'intervention, vous opérez...
Alors, nous sommes donc pour l'hébergement financé par, par l'État. Donc, naturellement, nous serions accessibles au niveau national. Pour autant, effectivement, l'hébergement est un peu organisé en termes de région, donc, et même de département. Donc, aujourd'hui, on accueille principalement des gens des Yvelines, mais il peut arriver qu'on accueille des gens, des personnes autour voilà, de l'Île-de-France, voilà, selon leur, leur projet de vie, qui passe effectivement par le service intégré d'accueil et d'orientation. Donc voilà, on nous, les personnes expriment leurs besoins en matière d'hébergement et en fonction de leurs besoins, du lieu et puis du type de logement, on va nous orienter les ménages quand les logements sont libérés.
Alors, il y a plusieurs types d'accompagnement vers le logement. Il y a l'accueil temporaire en attente, enfin, quand la personne attend de trouver un logement. Il y a l'accompagnement plus sur la durée. Il y a l'accueil d'urgence également. Est-ce que vous pouvez détailler tous ces...
Alors, en fait, en matière d'hébergement, on a l'habitude de dire qu'il y a effectivement une progression dans le parcours résidentiel. Donc, il peut y avoir différents types d'accueil. Ça commence généralement par de l'hébergement d'urgence, donc un centre d'hébergement d'urgence, où là, effectivement, on répond à toute demande, voilà, au tout venant. Et puis, après, il va y avoir de l'hébergement et de réinsertion sociale, ce qu'on appelle les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, où là, on est plutôt dans la construction d'un projet d'insertion. Et c'est sur du long terme, quand les personnes peuvent cumuler des difficultés sociales, à la fois au niveau de l'emploi, à la fois au niveau de l'endettement, au niveau de la santé. Donc voilà, on cumule des difficultés, on sait qu'on va avoir besoin de temps pour pouvoir se reconstruire et s'insérer. Et donc du coup, il y a ce centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Et puis la dernière étape de l'hébergement, c'est ce que nous on appelle le logement passerelle, où effectivement on est vraiment dans l'attente d'accéder à un logement parce qu'il y a une démarche, un document administratif qui peut manquer, ou parce que vraiment on est dans l'attente d'une proposition de logement, on attend dans un hébergement dit très temporaire. Voilà.
Alors concernant les bénéficiaires, comment ils doivent faire pour pouvoir prétendre au logement social ?
Alors, pour le logement social, il faut avoir fait une demande de logement social en ligne, de plus en plus. C'est à nouveau une démarche qui parfois peut être compliquée parce qu'en plus, il faut pouvoir scanner des pièces justificatives. Donc, ce n'est pas toujours une démarche facile. Il y a encore sur le Mantois le service logement à la fois sur Mantes-la-Jolie et sur Magnanville qui permettent d'instruire sa demande de logement. C'est essentiel parce qu'aujourd'hui, en région Île-de-France, le logement est vraiment une problématique accrue. C'est très difficile d'obtenir un logement social. Alors, c'est d'autant plus difficile quand on se rapproche de Paris et de la petite couronne. Mais sur le Mantois, c'est aussi difficile. En moyenne, il faut compter 3 ans pour obtenir un logement social classiquement. Alors, quand on est dans des situations de rupture et d'urgence par rapport au logement et qu'on est obligé de passer par une structure d'insertion, généralement, il faut solliciter effectivement les secteurs d'action sociale, donc la polyvalence de secteurs du département des Yvelines, exprimer pourquoi on est en difficulté d'hébergement, quelle est l'urgence d'être accueilli. Et là, il va y avoir un dossier qui va être constitué auprès du SIAO.
Et quelles sont les conditions pour prétendre au logement social ?
Alors, pour le logement social, les conditions généralement que demande un bailleur, c'est un minimum de revenus, qu'ils soient liés à un emploi ou de transfert, mais un minimum de revenus qui permettent de payer le loyer et les charges. Les bailleurs sociaux demandent toujours un minimum de reste à vivre. Donc, une fois qu'on a fini de payer le loyer et toutes les charges afférentes, qu'il y ait une capacité de reste à vivre pour que les gens ne soient pas en difficulté dans l'accès au logement. Et puis, avoir une situation administrative régulière, c'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui avoir un document d'identité prouvant qu'on est autorisé à rester sur le territoire français. Il faut avoir un avis d'imposition N-2, ce qu'on dit, parce qu'effectivement, il faut pouvoir justifier des ressources pour pouvoir accéder au logement social. Toute personne ne peut pas accéder au logement social. Les gens qui ont des ressources élevées vont plutôt aller dans du logement privé ou être en accession à la propriété. Le logement social doit rester accessible aux plus démunis. Voilà, donc en fait, pouvoir justifier de ses ressources, pouvoir justifier de son identité et de sa situation régulière sur le territoire et avoir des ressources suffisantes pour pouvoir payer le loyer et les charges afférentes.
Et concernant l'hébergement, à qui faut-il s'adresser ?
Donc, il faut s'adresser le plus généralement possible à l'assistante sociale de secteur. C'est assez bien connu sur les territoires. Voilà, il y a un secteur d'action sociale à Mantes-la-Ville, un à Mantes-la-Jolie. Et donc, vous pouvez prendre rendez-vous auprès d'une assistante sociale en indiquant votre lieu de résidence ou d'hébergement. Et puis, vous allez être reçu et présenter vos difficultés.
On va reparler plus globalement de l'association. On n'a pas dit combien vous étiez à travailler pour l'établissement de la Mandragore.
Alors aujourd'hui, il y a donc une direction composée de deux chefs de service, un chef de service sur le secteur logement, un chef de service sur le secteur hébergement et moi-même en direction avec une secrétaire de direction. Nous avons aussi tout un service administratif, donc de l'accueil, la comptabilité, des agents techniques qui vont faire l'entretien des logements. Et puis, on a, c'est la majorité de notre équipe, 15 travailleurs sociaux de formation initiale différente. Ça peut être des assistantes de service social, ça peut être des éducateurs spécialisés, ça peut être des conseillers en économie sociale et familiale. Voilà, donc des formations en diplôme en travail social qui vont du coup accompagner par référence, c'est-à-dire qu'un travailleur social va avoir 10 à 15 suivis et va pouvoir accompagner les personnes en difficulté par rapport aux problèmes repérés.
Alors vous aviez évoqué au début de l'interview les partenariats. Est-ce qu'on peut lister les types de partenariats que vous avez ?
Alors, les partenariats les plus importants pour nous, c'est effectivement les communes qui vont faciliter notre intégration sur la cité, donc les mairies, les bailleurs sociaux. On travaille donc effectivement beaucoup avec les partenaires qui repèrent les personnes en difficulté, donc le conseil départemental à travers les secteurs d'action sociale, l'hôpital, tous les services de santé qu'on peut avoir sur le territoire, et puis toutes les services aussi des entreprises d'insertion par l'économie. Enfin voilà, un peu toutes les structures d'insertion, qu'ils soient par l'emploi, par la santé, par l'hébergement, qui peuvent repérer des personnes en difficulté. Voilà, donc ça, on essaye de travailler très régulièrement ensemble pour que chacun se connaisse très bien et puisse orienter le mieux les personnes.
Merci à vous Valérie Noël d'être venue dans nos studios pour nous parler de l'établissement La Mandragore.
Je vous remercie beaucoup.
C'est la fin de cette émission, vous pourrez la réécouter jeudi prochain à 19h30. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Très bonne journée à l'écoute des programmes de BPM.